Poésie présente Eugénia de Lionel Duroy. Lu par Mickey Sébastien. À Betty Mialet et Bernard Barrault, qui m'accompagnent depuis 30 ans. Mihail est mort hier, le 29 mai 1945, renversé par un camion. C'est Andrei qui m'a prévenu. J'ai décroché le téléphone, pensant que ce devait être Mihail. Il n'y avait pratiquement que lui qui m'appelait. Jana, c'est moi. J'ai eu peur de ne pas te trouver. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon petit frère s'efforce de ne jamais se plaindre. Mais là, j'ai deviné qu'il se retenait de pleurer.
Tu n'as pas écouté la radio ?
Non, pas ce soir. Pourquoi ?
Ne l'allume pas. Je vais venir.
Non, tu me dis d'abord ce qui est arrivé. C'est Stéphane ? Ils ont retrouvé Stéphane sous les décombres de Berlin ?
Attends-moi. Je suis chez toi dans 10 minutes. Non, ce n'est pas Stéphane.
Alors c'est papa ou maman? Tu me dis tout de suite ce qui est arrivé, Andrei. Tu m'entends tout de suite?
C'est Mihail, Jana.
Mihail.
Il ne parlerait pas de nos parents à la radio. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas te le dire comme ça.
J'ai entendu qu'il étouffait un sanglot. Mihail s'est fait agresser, c'est ça?
Oh, Jana. Ils disent qu'il est mort. Ils disent...
Attends-moi, je vais venir. Attends-moi surtout. J'ai reconnu cette espèce d'aboiement affreux qui jaillissait de moi. Celui des femmes quand on leur apprenait que leur mari ou leur fils venait d'être tué. Celui de maman, quand elle a su que Stéphane était porté disparu. Et ça, je ne le voulais pas, à aucun prix. Les femmes qui se tordent et sanglotent, tandis que les hommes se taisent. Jusqu'à la nausée, le théâtre des femmes. Alors, machinalement, j'ai allumé la radio et je me suis assise. Tout mon corps s'est mis à trembler et j'ai croisé les bras pour le contenir. Une voix que j'ai immédiatement identifiée comme celle de Mircea Eliade évoquait la place de l'accident dans l'œuvre de Mihail.
« Mon ami Mihail Sébastien, » répétait-il. « Mon très cher ami. » De ce ton doucereux de repentance qu'il adopte depuis que sa très chère Allemagne a cessé d'exister. « Dans toute l'œuvre de Sébastien, » disait-il, « voyez la place qu'occupe la rencontre fortuite, le hasard, l'heureux accident, n'est-ce pas ? Susceptible de libérer son personnage de l'univers oppressant et clos dans lequel il se débat.
« Monsieur Eliade, » a repris le journaliste, lui aussi plein de componction. « Comment parler d'heureux accidents en ce jour funeste ?»«
Mais qui vous dit que Sébastien n'espérait pas ce moment ? Qui vous dit qu'il ne l'attendait pas comme une délivrance ?»
Soudain, ce fut de nouveau le Mircea sûr de lui des grandes années de la garde de fer. L'implacable laudateur de Codreanu et d'Hitler. Celui qui avait prétendu un soir d'août 1941 qu'il était saint que les Juifs payent enfin pour tout le mal qu'ils avaient fait aux différents peuples d'Europe qui les avaient accueillis.
Et tu me dis cela à moi, ton ami,
avait doucement rétorqué Mihail.
« Je dis cela à Yossif Hechter, Mihail. N'es-tu pas Yossif Hechter, par le sang qui te coule dans les veines, avant d'être l'écrivain Mihail Sébastien ?»
Sur la fin, Mihail ne voulait plus le voir. Et quand Eliade revenait pour quelques jours à Bucarest, de Lisbonne où il était attaché culturel à l'ambassade de Roumanie, les deux amis s'évitaient. Et puis, je n'ai plus voulu entendre ce type. Et je me suis mise à tourner dans ma petite cuisine. J'avais hâte qu'Andrei soit là, qu'il remplisse de sa présence et de ses mots le vide dans lequel je commençais à me sentir tomber. Cependant, les phrases d'Eliade me revenaient. Il avait raison, bien sûr. Toute sa vie, Mihail avait espéré une heureuse rencontre, un heureux accident qui le sortirait de sa mélancolie. Et c'est à ce moment-là seulement, sotte que je suis, que j'ai fait le rapprochement avec le titre de son dernier roman, « L'accident », sorti en 1939, juste avant la guerre. Oh mon Dieu! Je me suis précipitée sur le livre. C'était idiot, je savais bien que Mihail n'y annonçait pas sa propre mort. Je l'avais lu et relu, espérant au contraire y trouver pour nous deux des raisons d'espérer. L'accident qui ouvre le roman, c'est celui d'une jeune femme, Nora, qui chute lourdement de la plateforme d'un tramway dans une rue de Bucarest, et que Paul, le double de Mihail, finit par accompagner chez elle, faute d'autres volontaires. Paul est affreusement désagréable avec Nora, comme Mihail l'était avec moi les premiers temps. Car il vit alors la fin d'une histoire tumultueuse avec une artiste peintre, Anne, qui le trompe un soir sur deux, se moque de lui, mais ne le lâche pas d'une semelle, comme si elle prenait plaisir à le martyriser. À la fin du roman, et bien qu'il soit toujours épris d'Anne, c'est en tout cas mon avis, Paul s'abandonne aux bras maternants de Nora et il jure qu'on ne lui reprendra plus. Jamais, jamais. C'est un dénouement pitoyable. Un arrangement de petit épargnant qui ne ressemble en rien à l'homme qu'était Mihail. D'ailleurs, nous nous étions disputés à ce propos. Paul va s'ennuyer à mourir avec sa Nora. Et vous le savez bien, Mihail. Nora est loyale. Avec elle, au moins, il ne souffrira plus. Jamais, jamais, je sais, j'ai lu. Mais c'est à Anne qu'il pensera en lui faisant l'amour.
Ce n'est pas dans mon livre.
Non, mais dans votre tête. Je ne crois pas à votre morale de boy scout. Sinon, je ne vous aurais pas croisé il y a deux jours au bras de Lenny Kahler. Et je ne serais pas dans votre lit en ce bel après-midi de janvier. Il m'avait prié d'en sortir, de me rhabiller et de le laisser travailler. Il en était aux ultimes répliques de L'étoile sans nom, sa dernière pièce, dont il envisageait de confier le rôle principal à Lenny Kahler, justement. Et il voulait essayer de finir dans la nuit. Je me suis rappelé la scène, et dans le même mouvement de la pensée, qu'il venait de mourir. Je ne dirais pas que je l'avais oublié, mais un instant encore, il avait été vivant, nu, près de moi, les cheveux en désordre et cherchant ses cigarettes. J'étais en train de songer que j'allais appeler Lenny, partir pour Bucarest, me réfugier chez elle. Au début, elle m'avait regardé de haut, peut-être jalouse de ma jeunesse, ou blessée de me trouver chez Mihail, quoiqu'elle-même couchât avec tous les hommes de théâtre qui la courtisaient. Puis finalement, j'étais devenue sa petite Eugénia, son trésor, disait-elle en français, quand Andrei est apparu. Je me suis approchée pour l'embrasser, et lui, d'habitude si pudique, m'a prise dans ses bras. « J'ai tellement de peine pour toi », l'ai-je entendu murmurer. Comme je tremblais au point de claquer des dents, il m'a serré plus fort. Andrei est mon petit frère, mais il a une tête de plus que moi. Au contraire de Stéphane, notre aîné, qui était large et court comme notre père, tiens, voilà que je parle de Stéphane comme s'il était mort. Andrei est un long jeune homme aux traits délicats. Souvent, je me dis qu'il n'y a rien de mauvais en lui, aucun calcul. Et en même temps, c'est impossible. Chaque individu a sa part sombre. Je le sais bien. À moins qu'il soit un ange, comme l'était Eminescu ou Rilke, et que cet état lui épargne les mesquineries qui nous font honte. Lui aussi écrit de la poésie. Il espère être publié maintenant que la guerre est finie. Et en attendant, il se laisse volontiers inviter sur l'une ou l'autre scène de Jassy, encore à peu près d'aplomb, après les bombardements allemands et l'arrivée des troupes soviétiques, pour lire des poèmes d'Eminescu, de Goulian, ou, comme la semaine dernière, les élégies de Duino, que je ne connaissais pas, qu'il m'a fait découvrir.